Alors, je suis vraiment content de vous retrouver, Marie-Ève Coton, parce que là, si vous m'offrez les clés qui me permettront d'avoir une vie plus épanouie, moi qui pensais déjà être proche de ce nirvana, je ne demande qu'à entendre.
Alors, voici les 6 clés, Stéphane. Comme je disais, ce sont plutôt des repères que les gens peuvent avoir, et c'est dans ma tradition de présenter au début janvier la lecture que j'ai trouvée la plus éclairante sur le plan existentiel dans la dernière année. Si vous nous souvenez, il y a 2 ans, j'avais présenté les 5 regrets les plus fréquents que les gens ont avant de mourir. Question
Ça
d'essayer de
avait eu
pas de.
beaucoup de succès, je me rappelle
Oui,
cette chronique.
exactement. Et l'an passé, j'avais présenté 7 illusions à perdre pour être plus lucide. Alors cette année, j'y vais avec des prises de conscience pour être plus épanouie. C'est tiré d'un texte d'Olivier Berkman, qui est un journaliste britannique qui a écrit une chronique sur la psychologie dans The Guardian de 2006 à septembre 2020, et qui résume dans ses 6 prises de conscience-là ce qui l'a le plus aidé personnellement parmi tout ce qu'il a appris durant ses années de chroniqueur. Et je trouve qu'effectivement, ce sont de bons repères. Alors, les voici. Première prise de conscience. La recherche de développement personnel est un meilleur guide que la recherche de bonheur pour prendre les grandes décisions dans notre vie. Autrement dit, quand on a un choix à faire, au lieu de se demander est-ce que cette option-là va me rendre plus heureux, c'est plus utile de se demander est-ce que cette option-là va m'amener à évoluer comme être humain. Pourquoi? Ben d'abord parce que l'être humain n'est pas très bon pour prédire ce qui va le rendre heureux. En fait, quand les gens prennent des décisions en fonction du bonheur qu'ils pensent que ça va leur apporter, ils ont tendance à s'orienter vers la recherche de sécurité et de contrôle, ce qui peut les rendre moins inconfortables et plus heureux à court terme, mais pas nécessairement à moyen et à long terme. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que nos attentes par rapport au bonheur sont peut-être pas réalistes, parce que dans la psychologie populaire, le bonheur est présenté comme un état plutôt stable et atteignable, moyennant la bonne attitude et les bonnes décisions. Alors que pour tout le monde dans la vie, le bonheur est volatile, incomplet et dur à prévoir. Et la souffrance fait partie de l'existence autant que la joie. Aussi, il y a un constat que je fais à force de lire de la neuropsychologie, c'est que le cerveau humain est circuité pour la survie beaucoup plus que pour le bonheur. Par exemple, on est plus marqué et on se souvient plus des événements négatifs que des événements positifs. Parce que les événements négatifs sont traités par notre cerveau un peu comme des dangers, et la priorité de notre cerveau, c'est de s'occuper des dangers pour nous permettre de survivre.
Alors, on imagine dans nos conditions actuelles, avec la répétition à longueur de journée de tout ce qui cloche dans le monde, et particulièrement avec la pandémie, si on est en plus circuité pour donner priorité à cette information, ça nous éloigne de notre bonheur très certainement.
Bien, c'est sûr, on le voit, le moral des troupes est affecté beaucoup par la pandémie, le moral de tout le monde. Et effectivement, comme on est en face d'un danger réel, bien, notre cerveau met ça en priorité et donc on est particulièrement attentif à tout ce qui touche ce sujet-là. Il y a une autre répercussion concrète de ça que je trouve intéressante. Moi, la recherche a montré que les couples qui restent ensemble, c'est ceux qui ont un ratio d'au moins 5 interactions positives pour une négative. Parce que ça prend au moins ce ratio-là pour que les gens dans le couple aient l'impression subjectivement que la relation est plus positive que négative, parce que justement des interactions désagréables comme une dispute mobilisent plus notre attention et restent plus dans notre mémoire que des interactions positives comme un beau souper d'amoureux. Alors tout ça pour dire que la souffrance est incontournable dans l'expérience humaine, que ce soit existentiellement ou neurologiquement, et qu'avoir la quête du bonheur comme ligne directrice principale dans la vie, ça a ses limites. Ça peut aussi nous faire percevoir les moments souffrants comme du temps perdu dans notre vie, alors que si on vise d'abord le développement personnel, les moments souffrants ne sont pas perdus. Au contraire, ils sont des occasions d'apprentissage et effectivement, c'est ce qu'on constate, les épreuves de vie sont souvent des catalyseurs de croissance personnelle. La deuxième prise de conscience, c'est la capacité de tolérer un inconfort mineur est une super puissance. Je la trouve particulièrement pertinente parce qu'après 20 ans à faire de la clinique, un des constats que je fais, c'est que l'évitement de la douleur ou de l'inconfort à court terme, c'est une des choses qui nuit le plus au bonheur de l'être humain. Je vous donne des exemples. On rêve de projets créatifs comme écrire un livre ou peindre, mais on ne tolère pas le sentiment de maladresse ou de confusion qu'il y a au début de chaque projet créatif, donc on abandonne. On est en conflit avec un collègue et on l'évite au lieu d'avoir une conversation malaisante avec lui, mais qui permettrait de dénouer le conflit. On a des problèmes dans nos relations amoureuses parce qu'on a de la difficulté avec l'intimité, mais on ne va pas en psychothérapie travailler ça pour éviter la confrontation que ça représente, le fait de regarder ses failles avec un professionnel, etc. Et il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que les êtres humains, parfois, on a tendance à se priver d'expériences enrichissantes quand elles nous causeraient du désagrément à court terme, alors que ce désagrément-là nous tuerait pas et serait temporaire. Alors, de s'entraîner à tolérer l'inconfort modéré, accepter d'avoir un peu mal à court terme pour être plus heureux par la suite, ça peut nous amener plus de satisfaction dans la vie.
C'est un peu le principe du vaccin.
C'est un peu le principe du vaccin, oui, effectivement. Donnons-nous un peu de acceptons d'affronter l'adversité un petit peu, ça va nous outiller. Et après ça, avec ces outils-là, on va être mieux équipé pour faire face à l'adversité et pour profiter d'un bien-être. La troisième prise de conscience, j'aime beaucoup sa formulation, c'est la solution.
Moi aussi, d'ailleurs.
Oui. La solution au syndrome de l'imposteur est de réaliser que vous en êtes un.
Bang!
Bang! Comme ça, ça fait mal au début, puis ça fait moins mal après. Mais le but ici, c'est pas du tout de dire aux gens qui sont incompétents, au contraire, c'est de prendre conscience que tout le monde improvise dans la vie dans une certaine mesure, même les gens qu'on admire et qui ont accompli des grandes choses. Donc, la raison pour laquelle on n'entend pas les monologues intérieurs de doute de soi des autres, c'est pas parce qu'ils en ont pas, c'est parce qu'on n'a pas accès à leur esprit. Et la réalité, c'est qu'il y a quelque chose de fondamentalement humain dans le doute de soi et la conscience de ses faiblesses. Alors, c'est pas parce qu'on se sent un imposteur qu'on peut pas contribuer autant que les autres dans notre domaine. Ensuite, quatrième prise de conscience, il y aura toujours trop à faire et le réaliser est libérateur. Alors aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, on a des vies très occupées à cause de plusieurs facteurs sociétaux. Par exemple, la technologie rend disponible une quantité incroyable d'informations, d'activités et de divertissements. Le capitalisme et la publicité favorisent des désirs de consommation et de revenus toujours plus grands. Il y a un certain culte de la performance dans notre culture. Les gens veulent performer au travail, comme parents, dans le sport, dans leur apparence physique, dans les médias sociaux, etc. Et tout ça fait en sorte que les gens ont beaucoup de tâches professionnelles et personnelles à accomplir. Ils veulent être productifs pour arriver à les faire, mais ils ont souvent l'impression de ne pas l'être assez, de négliger...
Marie, est-ce que je peux vous arrêter là-dessus? Parce qu'on a parlé hier de télétravail, du droit à la déconnexion... Puis je me demande si, justement, il n'y a pas un piège terrible qu'on se tend nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est celui ou celle qui doit décider si on en a fait assez, on repousse toujours les limites. C'est comme s'il y avait toujours une petite heure d'extra dans la journée pour en faire un peu plus. Ce qu'on n'aurait peut-être pas pensé faire si on était allé au bureau avec l'idée que quand on quitte, ben c'est fini.
Oui, il y a moins de démarcation maintenant avec le télétravail entre... les heures qu'on se donne pour le travail, où effectivement, il y a un cadre qui limite, particulièrement si vous êtes perfectionniste, à un moment donné, il y a pas de limite à part celle qu'on se met. Alors, je pense qu'effectivement, ce décloisonnement-là des frontières entre la vie personnelle et professionnelle peut amener là, des débordements dans une case ou l'autre. Et effectivement, ce qui est important, c'est que pour pas vivre de la culpabilité perpétuellement et d'avoir toujours le sentiment d'être sous-productif, il y a un constat qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation entre les exigences de notre époque et le temps qu'on a disponible. Autrement dit, accomplir tout ce qu'on pense devoir faire ou tout ce qu'on aimerait faire, c'est structurellement impossible. Alors, ça peut rendre la vie moins lourde de passer d'un cadre existentiel où notre objectif, c'est de négliger aucun domaine de notre vie, parce que c'est impossible, à un cadre où on prend pour acquis qu'on ne peut pas tout faire, mais où on choisit de façon consciente et proactive ce qu'on va négliger pour protéger ce qui compte le plus pour nous dans la vie, c'est-à-dire nos quelques priorités existentielles. Ensuite, cinquième prise de conscience, l'avenir ne nous procurera jamais l'assurance qu'on attend de lui. On le constate quand on côtoie la souffrance psychologique des gens au niveau professionnel, une bonne partie des souffrances de l'être humain vient de sa tentative de contrôler ce qui en fait n'est pas sous son contrôle. Et la principale chose qu'on essaie de contrôler sans jamais y arriver, c'est l'avenir. On voudrait désespérément savoir, de notre point de vue dans le présent, que tout va bien aller dans le futur. Les nombreux arcs-en-ciel « ça va bien aller » qu'il y avait dans les fenêtres au début de la pandémie en témoignent. Mais la réalité, c'est que l'avenir est toujours incertain. Il n'y a aucune façon de lancer un lasso autour de lui pour le maîtriser. Alors, ça peut être libérateur de réaliser que, peu importe combien on se fera du souci au sujet du futur, on ne le contrôlera jamais. C'est plus payant en termes de bonheur et de bien-être de mettre nos efforts à faire la paix avec cette réalité existentielle-là. Et finalement, la dernière prise de conscience, Berkman la phrasait « l'altruisme est surfait ». Mais personnellement, je dirais plutôt...
Vraiment?
Oui. Mais dans le sens plutôt de l'abnégation est surfaite. Parce que la recherche montre que les gens généreux sont plus sereins et vivent plus longtemps que les gens qui ne le sont pas. Donc, l'altruisme peut contribuer au bonheur des gens, ça c'est incontournable. Mais quand l'altruisme se rend jusqu'à l'abnégation, c'est-à-dire quand les besoins des autres passent trop souvent avant nos ambitions et nos passions personnelles, ça peut limiter le bonheur. En clinique, je vois ça surtout chez les femmes, particulièrement si elles sont mères, parce que la société a des attentes particulièrement élevées de don de soi et même d'abnégation envers elles, et ça peut les culpabiliser quand elles prennent du temps pour leurs propres besoins et leurs propres intérêts. Il y a une image que j'aime bien. Vous savez ce qu'on nous dit dans les avions quand on nous donne les mesures de sécurité? On dit aux parents de mettre le masque aux enfants avant de le mettre sur celui des enfants, parce que je pense que le réflexe de tout parent et de toute mère, ce serait de faire l'inverse. Mais je trouve que c'est une belle métaphore sur le fait qu'il faut quand même prendre soin de soi comme individu minimalement dans la vie. Et je pense aussi que les enfants ont besoin de parents sereins. Parce que c'est un peu leur modèle pour voir qu'on peut s'accomplir dans la vie, qu'on peut s'épanouir personnellement.
Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même, disait-on.
C'est un peu ça, Stéphane, en fait. Alors, vous avez maintenant les 6 clés vers le bonheur et vous allez pouvoir lâcher vos multivitamines.
J'aimerais tellement que ça soit vrai que je les ai, mais on pourrait les chanter ensemble. Voici les clés. Non, je ne le ferai pas, je ne vais pas vous faire souffrir, mais c'est une belle façon de commencer l'année et peut-être de se faire un petit programme. C'est des pense-bêtes qu'il faut se faire d'ailleurs. Sur un petit carton, on se les met, les 6 clés, les 6 pistes, et on les relit, on les médite jusqu'à ce que... On n'a plus besoin de vous, Dr Coton, ou d'un autre professionnel de la santé. Vous allez engendrer le chômage. Voilà l'aspect pervers de tout ça. Merci, Marie-Ève.
Ça m'a fait plaisir.